VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 3 février 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Le Sénégal à la finale de la CAN. Nous retrouvons Emmanuel Djiltap à Yaoundé.
La France organise un débat au Parlement sur son engagement au Mali.
Pour l'Allemagne, l'engagement militaire des Européens au Mali doit être réévalué.
La ministre française des Armées, Florence Parly, au Niger pour discuter du dispositif français au Sahel.
Sommet à Accra, au Ghana, des dirigeants d'une Afrique de l'Ouest déstabilisée par les putschs.
La Guinée-Bissau à la recherche de commanditaires et de mobiles après le coup d'État manqué de mardi.
En RDC, nouveau carnage mardi soir en Ituri. Plus de 50 morts dans un site de déplacés.
Voilà pour les titres, le journal maintenant.
Le Sénégal décroche sa place pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions de la Teranga ont été supérieurs aux étalons du Burkina qu'ils ont battu 3-1. L'adversaire du Sénégal va sortir du match de ce soir qui oppose le Cameroun à l'Égypte. De Yaoundé, le journal de la CAN, d'Emmanuel Julentap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Finaliste malheureux de la précédente édition, le Sénégal s'est qualifié hier pour la finale de la CAN 2021 en dominant une vaillante équipe du Burkina Faso sur le score de 3-1. Le film de la rencontre avec Amédine Sy.
Les Sénégalais ont posé le pied sur le ballon dès les premiers, mais du côté du Burkina Faso, on misait sur les contres. Après la mi-temps, le Sénégal va même ouvrir le score contre toute attente sur un retourné de Koulibaly qui s'est transformé en passe décisive. Abdou Diallo a ouvert le score à la 70e minute en battant le portier de l'équipe du Burkina Faso. Bamba Dieng a doublé la mise 6 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 76e minute. Le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille a profité d'un service de Sadio Mané pour marquer le but du break. Mais les Atalans vont jeter toute leur force dans la bataille et à force d'attaquer, ils finiront par réduire le score à la 90e par l'intermédiaire de Blati et Touré. Mais Sadio Mané pliait définitivement le match en inscrivant le 3e but du Sénégal à la 87e minute. C'était Amédine Sy pour la VOA Afrique.
Passeur et buteur face au Burkina, l'attaquant sénégalais Sadio Mané a été élu homme du match. Il revient sur la qualification de son équipe au micro d'Amédine Sy.
À un moment donné, on a souffert. Mais bon, on s'attendait à ça. On sait qu'on a en face de nous une belle équipe. Donc, c'était normal que ce soit un match aussi disputé et difficile. Mais bon, on a su gérer notre calme. Et jusqu'au bon moment, et on a fait la différence. On fait partie de l'équipe la plus expérimentée de cette CAN. Donc, ça ne sera pas une surprise pour nous. Donc, on sait que ça ne va pas être facile.
L'entraîneur du Burkina Faso, Camon Malo, reconnaît que l'expérience des joueurs sénégalais a fait la différence au cours du match d'hier. Mais il est satisfait de ses poulains. Il l'a confié à Kader Traoré.
Nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal et beaucoup plus athlétique et surtout beaucoup plus expérimentée. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en deuxième mi-temps. Alors, je félicite justement mes garçons pour cette aventure. Et nous, nous n'avons pas baissé les bras de sitôt parce que quand même, il y a une médaille à aller chercher.
À Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, les supporters sont partagés sur la sortie des étalons à ce stade de la compétition. Nous les écoutons dans ce micro-trottoir réalisé par Alidou Ouédraogo.
Bertrand n'est pas bien joué parce que il tombe, mais c'est lui parce que les enfants là même ne peuvent pas jouer à cause de Bertrand quoi.
L'équipe a bien joué, ça n'a pas marché, c'est tout. Ils ont eu des occasions qui n'ont pas pu concrétiser, c'est tout. Et puis on s'est retrouvé dans les carrés d'as, donc c'est acceptable. Donc,
On n'est pas content.
Principal n'est pas joué. Bertrand nous a tué.
C'est pas Bertrand sûrement, plus l'entraîneur.
Le Sénégal rencontre en finale le vainqueur du duel Cameroun-Égypte, une affiche chargée d'histoire dans le football africain, nous dit dans le coup de sifflet du jour, Jules Valentin Ngoué, depuis Libreville.
Bonjour. Voici donc le Sénégal en finale de la CAN pour la seconde fois consécutive.
C'est ce soir qu'il va connaître son adversaire de dimanche à l'issue du show qui va opposer aujourd'hui le Cameroun à l'Égypte. Un classique qui a une lourde charge émotive depuis les années 80 et l'opposition entre la cuvée du barbu Mardi Abdel Ghani et Taher Abou Zed pour l'Égypte et pour le Cameroun les ballons d'or Roger Mila, Thomas Nkono et autres docteurs Abega. L'avantage qui était alors pour le Cameroun a été inversé sous l'ère Abou Treika par les Égyptiens, vainqueurs successifs de trois Coupes des Nations entre 2006 et 2010 au détriment du Cameroun. C'est d'ailleurs de cette époque que date le contentieux qui va encore hanter ce soir les différents acteurs de la demi-finale Cameroun-Égypte. Un match nul synonyme d'élimination pour la Coupe du Monde en Allemagne, imposé à Yaoundé au Camerounais de Samuel Eto'o, éliminé de peu, avait plongé le pays tout entier dans le deuil. Cette arête reste encore en travers de la gorge du tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football et de tous les Camerounais en quête de revanche. Mais que ceux-ci n'oublient pas que les pharaons d'Égypte se rappellent aussi de leur finale de la CAN perdue au Gabon face à ce même Cameroun il y a deux éditions. Alors, une double histoire de vengeance pour le même match, ça sent forcément la poudre. Affaire à suivre, à bientôt.
Comment les Lions indomptables se sont-ils préparés pour ce match? Réponse avec le milieu du terrain du Cameroun, Franck Zambo Anguissa.
Je pense qu'on est dans un état d'esprit serein. On sait que c'est un match important, c'est un match qui nous tient à cœur, on a envie de le gagner. Et je pense que le groupe aujourd'hui est mobilisé pour aller chercher cette victoire. On sait que ça ne va pas être chose facile, mais on a confiance en nous, on a confiance en nos qualités. On apprend tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que le groupe est focus sur cette demi-finale. Nos objectifs sont à notre portée de main. Donc je pense que tout le monde aujourd'hui est suffisamment déterminé et a envie de gagner ce match.
Carlos Queiroz, le sélectionneur des Pharaons, se dit honoré d'affronter le Cameroun en demi-finale et précise à découdre avec les Lions indomptables.
Nous sommes prêts à affronter l'équipe nationale du Cameroun et produire un bon football pour un bon impact, non seulement ici au Cameroun et en Égypte, mais également au sein de la communauté footballistique internationale. C'est donc une opportunité pour nous de montrer que le football en Afrique est en forme et que nous avons beaucoup à offrir au monde.
Cameroun-Égypte, c'est ce soir, à partir de 19h, temps universel. Au générique de ce journal de la CAN qui s'achève, Kader Traoré Mamadou, Amédine Sy, Ali Doué Traogo, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Emmanuel, merci. Dans le reste de l'actualité à Paris, un débat sera organisé au Parlement afin d'évoquer l'engagement militaire de la France au Mali. C'est dans le contexte d'une crise diplomatique aiguë entre les deux pays, selon l'annonce hier du Premier ministre Jean Castex. Le point avec Eric Manirakiza.
Au terme de la Constitution, ce débat peut, si le gouvernement le décide, faire l'objet d'un vote sans engager la responsabilité de l'exécutif. S'exprimant au Sénat, le Premier ministre a admis que la situation au Mali et au Sahel en général est extrêmement préoccupante. Ce n'est pas simplement un problème franco-malien, c'est un problème du Mali dans la lutte contre le terrorisme, a insisté le Premier ministre. M. Castex a de nouveau plaidé pour la recherche d'une réponse multilatérale avec les États africains principalement concernés. La junte au pouvoir a décidé lundi d'expulser l'ambassadeur de France au Mali. En réaction, Paris a annoncé vouloir discuter dans les deux semaines avec ses partenaires européens du devenir de la présence militaire européenne dans ce pays. À deux mois de la présidentielle, l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali a mis au cœur de la campagne la question de la présence militaire française dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.
L'engagement militaire des Européens au Mali doit être réévalué. C'est la décision faite hier par Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, après l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, Claire Mouret-Jubourg.
Au vu des dernières mesures prises par le gouvernement malien, nous devons honnêtement nous demander si les conditions pour le succès de notre engagement commun sont toujours réunies, a déclaré Madame Annalena Baerbock, qui a précisé que l'engagement européen n'était pas une fin en soi. La réaction allemande fait suite à l'escalade des tensions entre le Mali et la France. La secrétaire d'État aux affaires étrangères allemande, Katja Köhl, doit se rendre aujourd'hui au Mali pour rencontrer des soldats allemands, des représentants du gouvernement et de la société civile. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, avait exclu le 22 janvier un retrait des soldats de la Bundeswehr déployés au Mali. Elle avait assuré qu'il ne fallait pas laisser la place au groupe Wagner, une agence paramilitaire privée russe, accusée par Paris d'être au Mali pour soutenir la junte. Les autorités de Bamako n'ont jamais confirmé une quelconque présence russe au Mali.
La ministre française des Armées, Florence Parly, va discuter avec le président nigérien Mohamed Bazoum de l'évolution du dispositif militaire français au Sahel, a annoncé hier soir son ministère. Selon son communiqué, Madame Parly, partie mercredi et jeudi à Niamey, va assurer les autorités nigériennes du soutien infaillible de la France face aux périls djihadistes.
Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent ce jeudi à Accra, alors que trois pays de cette région, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, sont dirigés par des militaires poutistes et ont été suspendus de ces instances. Un quatrième pays ouest-africain devrait s'inviter à l'ordre du jour du sommet, la Guinée-Bissau, visée mardi par un coup d'État avorté qui a fait plusieurs morts et blessés graves, selon le président Oumaro Sissoko Embalo.
Signalons à ce propos que l'armée bissau-guinéenne a lancé hier une vaste opération, y compris au siège du gouvernement, selon un responsable militaire, pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de cette tentative de coup d'État, sur laquelle de nombreuses zones d'ombre subsistent. La vie a prudemment repris son cours dans la capitale Bissau, selon des correspondants de l'AFP.
En RDC, plus de 50 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrées mardi soir sur un site de déplacés en Ituri, dans le nord-est du pays, dans un nouveau carnage. Est pointée du doigt la milice Codeco qui prétend défendre les intérêts de la communauté Lendou et attaque principalement les membres de la communauté Emma.
À Kinshasa, au moins 26 personnes sont mortes électrocutées hier lorsqu'un câble haute tension est tombé dans un caniveau rempli d'eau suite à une pluie et traversant un marché de l'ouest de la capitale. À Kinshasa, comme partout en RDC, des câbles de la SNEL sont mal entretenus.
Le président russe Vladimir Poutine dénonce le refus de l'OTAN de prendre en compte les inquiétudes de son pays pour sa sécurité, alors que les tensions autour de l'Ukraine s'aggravent. Washington a annoncé l'envoi de 3000 soldats supplémentaires dans la région. Abdourahman Dia.
Selon un communiqué du Kremlin, à la suite d'une discussion téléphonique entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président Poutine, ce dernier a évoqué le manque de volonté de l'OTAN de répondre de manière adéquate aux préoccupations légitimes de la Russie concernant sa sécurité. Le président russe a en outre accusé les autorités ukrainiennes de sabotage chronique des accords de paix de Minsk signés en 2015 entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Moscou nie avoir le moindre projet d'invasion, mais exige des garanties pour sa sécurité, demandant notamment que l'Ukraine ne soit jamais membre de l'OTAN. Par ailleurs, la Russie a vivement critiqué la décision de Washington d'envoyer 3000 soldats supplémentaires en Europe de l'Est. Néanmoins, le volet diplomatique s'intensifie. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président russe Vladimir Poutine se sont accordés sur la nécessité de trouver une résolution pacifique à la crise ukrainienne. De son côté, le président français Emmanuel Macron va parler à Joe Biden et n'exclut pas d'aller en Russie pour rencontrer le numéro 1 russe.
Ici aux États-Unis, la marmotte Phil, à qui les Américains prêtent de supposées compétences météorologiques, a vu son ombre en sortant de son terrier hier. Jacques Aristide nous expliquera en seconde partie de cette édition. Avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À 2 mois de la présidentielle en France, l'expulsion de l'ambassadeur de France par la junte au pouvoir à Bamako a mis au cœur de la campagne la question de la présence militaire française au Mali. Un débat est prévu au Parlement français pour évoquer cet engagement des forces armées de Paris. Éric Manirakidza a joint dans la capitale française notre confrère Benjamin Roger de Jeune Afrique, spécialiste du Sahel.
Tous les candidats à la présidentielle ici à Paris, enfin la plupart des candidats, se sont emparés du sujet, et notamment les candidats de droite et d'extrême droite, comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse aussi. Tous jouent aussi sur la fibre nationaliste ici en France, sur le thème « il est scandaleux que la France déploie des soldats et qu'en plus les autorités maliennes expulsent l'ambassadeur ». Et du coup, on voit bien que certains candidats ici à la présidentielle jouent là-dessus pour flatter leur électorat.
Est-ce que c'est une question qui va avoir des effets sur les électeurs qui sont normalement concernés par leur quotidien?
Les électeurs, je ne pense pas, ou peu, ou alors tout du moins une petite partie d'entre eux, parce que globalement, les sujets de politique internationale intéressent assez peu, et malheureusement, si je puis dire, encore moins quand il s'agit d'Afrique. Et donc, les gens s'y intéressent assez peu. Il n'empêche que c'est un vrai sujet pour Emmanuel Macron, parce que c'est un vrai caillou dans sa chaussure. Il a beaucoup misé sur sa politique africaine en termes de politique étrangère, et aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, les tensions avec Bamako, le fait que ça devienne de plus en plus intenable de garder des soldats français vu les tensions diplomatiques entre les deux pays. Tout ça souligne l'échec de la politique française et en creux, du coup, celle de Macron, même s'il n'est pas uniquement comptable. La France est présente au Mali depuis l'opération Serval en 2013 et donc tout ça remonte à son prédécesseur François Hollande. Mais lui a essayé de sortir de ça, a essayé de faire évoluer le dispositif Barkhane et là on voit bien qu'il est dans une espèce d'impasse et que tout ça tourne un peu à l'échec pour lui, et on voit bien que c'est de plus en plus gênant pour l'Élysée.
À quoi peut-on s'attendre du débat parlementaire sur la question?
Je pense que ça montre surtout que le débat en France, que la situation est devenue suffisamment grave et est devenue suffisamment un sujet de polémique au niveau politique. Tous les partis s'en emparent, les candidats s'en emparent. Et donc ça devenait difficile pour le gouvernement de pas tenir un débat à l'Assemblée nationale. Même si certains disent que ce débat sur la présence de militaires français et de la force Barkhane au Sahel aurait dû être posé à l'Assemblée nationale bien plus tôt. Après, est-ce que ça peut changer quelque chose? En vérité, Emmanuel Macron et La République En Marche ont une large majorité à l'Assemblée nationale et la décision sera surtout prise par l'Élysée et le gouvernement dans les jours à venir, et notamment lors du prochain sommet Union européenne, Union africaine qui tiendra à Bruxelles mi-février. Et tout ça sera débattu par Emmanuel Macron avec ses homologues européens à cette occasion.
Notre confrère de Jeune Afrique, Benjamin Roger, spécialiste du Sahel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de personnes ont été massacrées mardi soir sur un site de déplacés en Ituri, dans le nord-est du pays. Plusieurs bilans font état de près de 60 morts. Cette tuerie est attribuée à la milice Codeco qui affirme défendre les intérêts de la communauté Lendu et attaque principalement les membres de la communauté Emma. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint Faustin Takema, habitant à Mambasa, en Ituri.
Il y a une attaque au niveau du site de Boule, dans la chefferie de Bahema Bahanoï, dans l'hôpital de Njougou, dans la province de l'Ituri. Il y a une attaque menée sur le site de déplacés par le groupe Codeco. Alors, cela a fait pas moins de 73 morts. La plupart des victimes étaient des enfants, les femmes et les vieillards, malheureusement, qui sont toujours victimes, qui paient la conséquence de l'activisme de ces groupes armés à ce côté-là. Alors, c'est comme ça que les habitants se sont réveillés dans un constat mer qui a eu cette attaque-là sur le site à cette époque-là, madame.
Alors, vous habitez en Ituri. Racontez-nous comment ça vous touche au quotidien.
En fait, ce que moi je peux vous dire, madame, c'est que l'incite-là, c'est un site de déplacé, l'incite de Boulet de déplacé, qui est constitué majoritairement de la communauté HEM. Mais ce groupe armé-là qui attend le Codeco, ce groupe armé a donc à connotation l'Inde, de la communauté l'Inde. Donc, malheureusement, chacune des communautés maintenant a son groupe armé. Si on n'était pas garde, on doit toujours subir des attaques armées, malheureusement, qui causent des morts, donc des tueries, d'enlèvements, de kidnappings, des viols, malheureusement. C'est que nous vivons ici, madame.
Qu'est-ce qui est fait pour améliorer la situation vers chez vous?
À mon avis, madame, je pense que pour remédier à cette question de la sécurité qui se vit toujours dans la partie est de la RDC et la province de l'Ituri en particulier, je pense que peut-être que les autorités au niveau national, au niveau de la capitale, au niveau de Kinshasa, puissent revoir leur stratégie sécuritaire et puis chercher à investir, chercher à diminuer la pauvreté qui règne. Il y a des hommes qui ne sont pas employés, ils sont là à la merci de tout le monde. Ils sont là facilement manipulables par des personnes de mauvaise intention. Donc, il faut beaucoup plus d'investissement dans cette partie-là et puis que les autorités puissent revoir leur stratégie sécuritaire à l'Est, à Genève et à Ituri en particulier. Et puis avoir à la fin une discussion franche entre les communautés, une discussion intercommunautaire, ce qui pourrait essayer de tout calmer la situation, la tâcheur, les ardeurs des uns et des autres, madame.
C'était Faustin Takema, un habitant de Mambasa en Ituri, en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Congo-Brazzaville voisin, les autorités annoncent l'organisation d'un dialogue politique dans le nord du pays afin que les acteurs politiques accordent leur violon avant d'aller aux prochaines élections législatives et locales. Selon notre correspondant sur place, Arsène Sévra, les acteurs politiques réagissent différemment à cette annonce.
Les assises auront lieu à partir du 3 mars à Owando dans la cuvette. Dès lundi prochain, le ministre en charge des élections va déjà recevoir les acteurs concernés. Mais plusieurs partis de l'opposition comme l'UPC de Paulé Makaya ne sont pas retenus. L'ancien ministre Alain Akwala estime que cette initiative du gouvernement est une bonne chose car elle permet aux acteurs politiques de se parler plutôt que d'être surpris par les événements.
Les acteurs politiques de ce pays veulent du dialogue et que nous-mêmes nous avons conçu une innovation constitutionnelle en constitutionnalisant le Conseil national du dialogue. Et donc, je ne peux que me réjouir parce que le véritable dialogue ne peut être que le seul ferment pour pouvoir justement faire émerger une véritable démocratie dans notre pays.
Pour Vivien Manango, président du parti Debout pour le Congo, il faut que cette concertation politique examine de vrais problèmes qui créent les crises politiques dans le pays à chaque élection.
On avait prévu faire le recensement. À ce jour, à 4-5 mois, il sera impossible de faire le recensement. Alors que ça fait déjà un moment que les différents dialogues ont acté le fait qu'il fallait qu'il y ait un recensement pour que nous ayons un fichier électoral qui soit le plus transparent et le plus incontestable possible. Ensuite, il y a la question de la répartition des sièges, c'est-à-dire la question des circonscriptions. Est-il normal aujourd'hui que Mungali, qui est moins peuplé que Madibou, que Mungali ait 3 circonscriptions et que Madibou n'ait qu'une seule circonscription? Est-il normal aujourd'hui que Tchétché ait que 2 circonscriptions alors qu'il est Tchétché et 3-4 fois plus peuplé que Bakongo, toi Congo, on est également 2? Voilà les questions que l'on doit poser lors de ce dialogue. 2 questions principales.
L'opposant Clément Mirassa dit ne rien attendre de cette rencontre. Il appelle plutôt les pouvoirs publics à organiser un dialogue national inclusif pour discuter de tous les problèmes qui minent le pays.
La fédération de l'opposition congolaise a toujours été favorable et
se bat et mène le combat pour la tenue dans ce pays, non pas des concertations politiques destinées fort malheureusement qu'aux questions électorales qui, et ils n'arrivent pas, ces mascarades n'arrivent pas à atteindre les objectifs, la fédération de l'opposition congolaise se bat pour la tenue effective d'un dialogue national inclusif tel que le président Sassou le soutient et l'encourage au Tchad, en République centrafricaine et en Libye.
Prélude à la dernière élection présidentielle de mars 2021, une concertation similaire avait eu lieu à Madingou dans la Bouenza. Mais les participants ne s'étaient pas accordés sur les conditions d'organisation du scrutin. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Maintenant, comme promis avec Jacques Aristide, ici aux États-Unis, une célèbre marmotte prédit encore 6 semaines d'hiver. Il s'agit de Phil, la marmotte de Punxsutawney. C'était hier, mercredi 2 février, le Groundhog Day, comprenez le jour de la marmotte. Avec un montage de Lionel Gahima, Jacques Aristide nous raconte cette tradition américaine.
En Pennsylvanie, ce mercredi matin, des milliers de spectateurs n'ont pas manqué le rendez-vous annuel pour la prédiction de Phil, la marmotte vedette de cet état du nord-est de l'Amérique. La nouvelle est tombée et elle n'est pas très bonne pour ceux qui n'aiment pas l'hiver. Voici donc la prédiction de Phil, telle que lue par le président du Groundhog Club de Punxsutawney.
With my shadow I have cast.
Maintenant, quand je me tourne pour regarder mon ombre parfaite, j'aperçois encore 6 semaines d'hiver, longue et brillante, il y aura.
Le printemps va donc être tardif, selon Phil. Malgré le mauvais verdict, les applaudissements fusent de partout pour la marmotte. Cette tradition nord-américaine veut que si le rongeur émerge de son terrier et ne voit pas son ombre, l'hiver finira bientôt. En revanche, s'il voit son ombre, il retournera vite dans son trou et l'hiver se poursuivra pendant encore 6 semaines. Et c'est ce dernier scénario qui s'est déroulé ce mercredi lors de la cérémonie annuelle dans la petite ville de Punxsutawney.
Je m'appelle Fred Flesh de New Jersey. Je suis ici pour mon 50e anniversaire.
Punxsutawney figure sur ma liste de choses à réaliser. J'en parle depuis, je crois, 20 ans maintenant.
Je viens assister au jour de la marmotte tous les ans. Je suis originaire de Punxsutawney.
Bien qu'il ne soit pas diplômé en météorologie, Phil et ses amis marmottes prédisent les saisons depuis 1887. La coutume est liée au jour de la Chandeleur, toujours le 2 février. Il s'agit du réveil des animaux dits dormeurs à la Chandeleur, une tradition d'origine européenne. L'événement est très suivi par les Américains chaque année le 2 février. La cérémonie est diffusée en direct à la télévision et sur Internet. Phil Griffiths est l'un des organisateurs de la cérémonie.
Mon propre sentiment à propos du Groundhog Day, pourquoi je pense que c'est un événement spécial, c'est qu'il n'est pas religieux, pas politique. Il s'agit seulement de s'amuser.
It's all about having fun.
Cette tradition bien ancrée a donc tenu ses promesses encore une fois cette année. Reste maintenant à voir si la prédiction de Phil, la marmotte, s'avérera correcte.
Six more wings.
Merci Jacques. Eh bien voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nanit Talani, à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.